Alors, la question de la dette publique, évidemment, agite beaucoup les esprits après la crise de la COVID, parce que les taux d'endettement public ont monté à des niveaux qui n'étaient pas vus depuis la Première et la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, on arrive à un taux d'endettement public qui est de 117% en France, de 140% aux États-Unis, de 260% du produit intérieur brut au Japon. Et à nouveau, on n'avait pas observé un niveau d'endettement public à ce niveau depuis 1945-46, hein, après la Seconde Guerre mondiale, ou 2018-19, après la Première Guerre mondiale. Alors, il y a eu beaucoup de débats, et encore aujourd'hui, sur le risque d'une crise des dettes, sur en fait le risque d'apparition d'une situation où ce qu'on appelle la soutenabilité des dettes publiques ne serait plus assurée. C'est-à-dire que les États ne seraient plus solvables, ne feraient plus face à la charge des dettes publiques. Alors, réfléchissons à cette question de la soutenabilité de la dette. Il faut comprendre qu'il y a deux régimes économiques extrêmement différents et qui dépendent de la hiérarchie entre les taux d'intérêt et la croissance de l'économie. Et que vraiment la question de la soutenabilité des dettes, hein, de la solvabilité des États, se pose de façon extrêmement différente selon qu'on est dans le régime, je dirais, traditionnel, qui est le régime où les taux d'intérêt sont plus élevés que la croissance, et le régime qu'on peut appeler contemporain, où les taux d'intérêt sont plus bas que la croissance. Toute la théorie économique, quand même, est assez largement basée, enfin, très grande majorité de la théorie économique est basée sur l'hypothèse que les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance. Il y a très peu de travaux de recherche en économie qui regardent la situation où les taux d'intérêt sont plus bas que la croissance. Il y en a, bien sûr, hein, c'est des travaux qu'on appelle sur la surcapitalisation de l'économie, hein, mais normalement, la situation qui est considérée comme normale, hein, usuelle, c'est la situation où les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance. Alors, commençons par cette situation. Dans cette situation où les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance, vous voyez que le taux d'endettement, alors aussi bien des États que du secteur privé, mais la discussion présente, elle est plutôt sur l'endettement public. Le taux d'endettement public, hein, qui est le ratio entre la dette publique et le produit intérieur brut, spontanément diverge. Parce que la dette croît comme le taux d'intérêt et le produit intérieur brut, hein, qui est la production de l'économie, croît comme le taux de croissance, bien sûr. Si le taux d'intérêt est plus grand que le taux de croissance, spontanément, la dette croît plus vite que le produit intérieur brut. Et donc, si on ne fait rien, on va avoir une hausse sans limite des taux d'endettement, qui évidemment aboutira à une crise où les États pourront plus rembourser leur dette publique. Et donc, dans ce régime, pour empêcher la hausse des taux d'endettement, il faut que les États aient des excédents budgétaires. Et même plus précisément, ça s'appelle un excédent budgétaire primaire. C'est-à-dire, c'est un excédent budgétaire quand vous calculez le déficit ou l'excédent du budget hors intérêt sur la dette, hein, en enlevant les intérêts sur la dette. Donc il faut que les États, dans leurs opérations, alors l'excédent budgétaire primaire, c'est la différence entre les recettes fiscales de l'État et c'est les dépenses publiques autres que les intérêts sur la dette. Donc il faut un excédent. Il faut que cet excédent soit suffisamment grand pour que le taux d'endettement public, dont vous voyez la tendance naturelle est d'augmenter sans limite, soit stabilisé. Alors on peut calculer cet excédent. Hein, techniquement, c'est le produit de la dette par l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. Mais il faut une politique budgétaire, vous voyez, assez restrictive, hein, qui génère des excédents budgétaires pour empêcher à nouveau ce qui se produit spontanément, qui est la divergence du taux d'endettement public qui croît sans limite. Et ça, c'est le régime dans lequel on était jusqu'à la fin des années 90, en gros, hein. Et dans toute la période entre la Seconde Guerre mondiale et les années 90, on était dans ce régime normal où les taux d'intérêt sont plus élevés que la croissance, et où donc il y avait une très forte contrainte budgétaire sur les États pour empêcher les dettes publiques et les taux d'endettement public de diverger. Et c'est de cette époque que datent les règles budgétaires, par exemple les règles budgétaires européennes qui disent que le déficit public ne doit pas être supérieur à 3%, etc. Parce qu'on se plaçait dans cette perspective où la situation normale était une situation où on pouvait avoir une explosion, hein, du taux d'endettement public. Alors depuis la fin des années 90, on est passé à une situation complètement différente où les taux d'intérêt sont devenus inférieurs au taux de croissance. Et ça, sous l'effet à la fois de la baisse des anticipations d'inflation, hein, qui fait baisser les taux d'intérêt, et des politiques monétaires qui sont beaucoup plus expansionnistes qu'avant. Donc on a de façon très régulière maintenant, depuis, alors dans certains pays 10 ans, dans d'autres pays 20 ans, des taux d'intérêt qui sont nettement plus bas que les taux de croissance, alors pas à chaque instant, mais les taux de croissance moyens, hein, de moyen terme de l'économie. Et là, vous voyez qu'on est dans une logique extrêmement différente, qui est que si le taux d'intérêt est plus bas que le taux de croissance, spontanément, la dette publique disparaît. Enfin, le taux d'endettement public descend, puisque la dette qui croit que le taux d'intérêt va croître moins vite que le revenu qui croit que le taux de croissance de l'économie. Donc on est dans une situation où, alors qu'avant, dans la situation historique de taux d'intérêt plus grand que le taux de croissance, la normale, c'était l'explosion du taux d'endettement public, là c'est la disparition du taux d'endettement public. Et donc c'est une situation qui est extrêmement favorable. Dans cette situation-là, on peut se permettre d'avoir un déficit public permanent. Et il est compensé par le fait que les taux d'intérêt sont plus bas que la croissance et que ceci tire vers le bas le taux d'endettement public. Alors ce débat est extrêmement vif aujourd'hui parce qu'un certain nombre d'économistes disent bah, dans cette configuration où le taux d'intérêt est plus bas que le taux de croissance, on peut financer beaucoup plus de dépenses publiques qu'avant et en particulier on va pouvoir financer tous les investissements de la transition énergétique, de la relocalisation, des dépenses pour les jeunes, la formation, etc. Parce que une fois qu'on a fait la dépense, bah, ça fait de la dette, puis ensuite au cours du temps, cette dette va disparaître hein, avec le niveau faible des taux d'intérêt. Alors est-ce que cet argument est vrai ? Bah, évidemment, il est vrai. À condition qu'on soit certain qu'à aucun moment dans le futur, les taux d'intérêt ne vont remonter au-dessus des taux de croissance. Si on est absolument certain aujourd'hui que de façon permanente et définitive, les taux d'intérêt vont rester plus bas que les taux de croissance, on a un potentiel de dépenses publiques supplémentaires qui est tout à fait considérable. Ça fera de la dette au début, mais ensuite, à nouveau, cette dette va s'éroder progressivement avec la faiblesse des taux d'intérêt. Et donc, le débat extrêmement central dans le monde économique et dans le monde des gouvernements aujourd'hui, débat par exemple qui est derrière toute la réflexion sur la réforme des normes budgétaires en Europe, c'est est-ce que nous pouvons être certains que définitivement les taux d'intérêt vont rester nettement plus bas que les taux de croissance ? Alors ça pose plusieurs questions. Qu'est-ce qui pourrait faire remonter les taux d'intérêt fortement ? Un, l'inflation, parce que les banques centrales ont normalement le devoir de remonter fortement les taux d'intérêt si l'inflation revient. Et ça explique tout le débat aujourd'hui sur le fait de savoir si l'inflation que nous voyons est transitoire, permanente, etc. Donc pour rester avec des taux d'intérêt bas, il faudrait soit qu'il n'y ait pas d'inflation, soit même s'il y a de l'inflation, que les banques centrales décident de ne pas réagir à l'inflation, ce qui est assez peu probable compte tenu de leurs contraintes et de leur statut. Et puis le second débat, c'est sur ce qui détermine à long terme les taux d'intérêt, c'est-à-dire l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Puisqu'une des raisons pour lesquelles les taux d'intérêt sont bas, c'est pas seulement les politiques monétaires expansionnistes, c'est aussi l'abondance d'épargne. Nous vivons depuis 20 ans dans un monde où il y a excès d'épargne. On a aussi parlé d'une forte demande pour les dettes sans risque. Et comme il y a beaucoup d'épargne, il y a beaucoup d'acheteurs d'obligations et donc les taux d'intérêt sont faibles. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir dans le futur une remontée des taux d'intérêt qui serait dirigée par un changement de cet équilibre entre l'épargne et l'investissement ? Alors il y a une interrogation parce que d'une part, normalement, le vieillissement démographique va faire baisser l'épargne. Normalement, les retraités désépargnent. Et deuxièmement, parce que la transition énergétique va nécessiter beaucoup d'investissements. Donc il y a certaines voix qui s'élèvent en disant, attention, dans 10 ans, on va être dans une configuration totalement différente. Il y aura moins d'épargne à cause du vieillissement, il y aura plus d'investissements, de besoins d'investissement à cause de la transition. Et donc les taux d'intérêt vont remonter parce qu'on va manquer d'épargne, alors qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, on avait trop d'épargne. Donc voilà, c'est des débats extrêmement importants. Parce que si vous êtes un gouvernement aujourd'hui dans un pays de l'OCDE, vous avez énormément de besoins. Alors on en parlait avant, l'éducation, la formation, la sécurité, la transition, l'industrie, l'innovation. Et si vous vous convainquez que les taux d'intérêt vont rester en permanence plus bas que les taux de croissance dans les 20-30 prochaines années, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez satisfaire ces besoins et dépenser plus dans tous ces domaines. Mais si vous craignez qu'à un certain moment, il y ait une remontée des taux d'intérêt, soit parce que l'inflation revient, soit parce qu'on va manquer d'épargne, ce qui est l'inverse d'aujourd'hui, alors vous ne pouvez pas y aller. Parce que vous vous mettez dans une situation d'être très endetté au moment où les taux d'intérêt vont remonter, de retomber dans le régime d'avant, où quand les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance, les taux d'endettement public explosent. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas du tout de consensus parmi les économistes. Hein. Il y a des économistes qui disent qu'il faut faire attention. On ne peut pas garantir que les taux d'intérêt ne vont pas remonter. Il y a des économistes qui disent non, on a une situation historiquement favorable. Il faut profiter de cette configuration pour dépenser beaucoup, faire tous les investissements publics nécessaires. Et ça dépend à nouveau de la question de l'inflation et ça dépend de la question de l'équilibre entre l'épargne et l'investissement qui sont extrêmement compliqués à analyser avec des horizons. C'est pas l'année prochaine, hein, c'est les horizons de 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'on sait de l'inflation dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on sait de l'équilibre épargne-investissement dans 10 ans? Donc voilà un peu le cœur de la réflexion et du débat aujourd'hui sur la politique de finances publiques hein, qui est au cœur de cette analyse. Alors ensuite, il y a toute une réflexion qui est entamée sur la réforme des normes budgétaires en Europe, hein, puisque c'est le seul endroit où on a des normes budgétaires. Et il y a des travaux, par exemple un rapport récent du Conseil d'analyse économique hein, de Philippe Martin et Xavier Rago, qui a fait une analyse assez théorique en disant « chacun des pays européens a des besoins différents ». Il y a des pays où il n'y a pas eu assez d'infrastructures, par exemple l'Italie, il y a des pays où il y a assez d'infrastructures, il y a des pays où le système éducatif va bien, les pays d'Europe du Nord, il y a des pays où le système éducatif ne va pas bien. Et donc, il va falloir accepter des normes budgétaires qui soient différentes d'un pays à l'autre. Un pays qui a davantage de besoins structurels d'investissement public sera autorisé à faire plus de déficits qu'un pays qui a un besoin structurel plus faible de dépenses publiques ou d'investissements publics. Alors, en théorie, ils ont parfaitement raison. Je veux dire, on devrait être capable d'analyser la situation de chaque pays, de dire en Italie, il est efficace de construire des infrastructures, mais en France, c'est pas la peine, donc on va autoriser les Italiens à faire plus de déficits que les Français. Et donc d'avoir une vision spécifique à chaque pays de la situation des finances publiques et des besoins en termes de dépenses publiques. Il faut aussi dire la même chose du côté des impôts. Il y a des pays où certains types d'impôts qui créent des distorsions sont trop élevés. Par exemple, les impôts de production en France, on sait que ça crée des distorsions et ils sont très élevés. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça va être extrêmement compliqué. Parce que arriver à une situation en Europe où on va donner des autorisations de déficit public aux différents pays qui ne seront pas les mêmes, avec probablement des autorisations de déficit public plus élevées dans les pays du Sud, dans les pays périphériques que dans les pays du Nord, c'est ingérable politiquement, parce qu'il n'y aura jamais de consensus là-dessus. Il y aura toujours des pays qui diront ben « Pourquoi moi, j'ai droit à 2% alors que lui, il a droit à 5% ?» Donc ça va être extrêmement compliqué à gérer. Et puis ça nécessite une capacité d'analyse des économies qui est sans doute hors de la portée, dans un temps relativement bref, de la Commission européenne. Il faut être capable de dire avec précision, ce pays-là, il a besoin d'investir là-dedans parce que c'est ça qui manque pour que sa situation économique s'améliore. C'est très très compliqué, quoi. C'est pas simple du tout. Enfin, donc trouver un consensus sur les besoins de dépenses publiques pays par pays qui aboutirait à des autorisations de déficit public différentes selon les pays, je crois que ça ne se fera pas. Je pense que c'est trop compliqué, à la fois d'un point de vue de l'analyse économique et du point de vue politique. Et donc, beaucoup plus probablement, on va arriver à une norme uniforme où on dira, par exemple, vous avez le droit de rajouter au déficit public autorisé une certaine proportion des investissements publics dans la transition énergétique. On se dirige plutôt vers quelque chose d'extrêmement simple et qui serait vraiment le même pour tous les pays.